Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle analyse de la recrudescence des attaques dans le pays sur le thème du Grand Dialogue? Les attaques de groupes armés s'accentuent davantage ce dernier temps à travers le pays. Le 15 janvier passé, l'armée a été victime d'embuscades sur la route Kaoula-Mourga de la région de Nara, avec 4 militaires et un civil de passage tués. 15 terroristes ont été neutralisés, rapporte l'armée malienne. Quelle analyse de la situation? Comment gagner une guerre asymétrique? Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités, Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires, Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S, Paul Oula, analyste sécuritaire. Je suis Imran Akilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
En plus de l'attaque sur la route Kaoula-Mourga le 10 janvier dernier, 14 militaires ont péri dans deux attaques complexes entre Dia et Diafarabé dans un premier temps et entre Koumara et Massina au centre du pays. 31 terroristes ont été également tués. Quelle analyse faites-vous de cette situation, Kadiatou Keïta?
Alors, merci de l'invitation. Je pense que premièrement, il y a plusieurs grilles de lecture à avoir. La première, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus d'attaques extrémistes violents, mais pas que des attaques d'extrémistes violents. Il y a de plus en plus d'actes de criminalité aussi, et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Je pense que c'est très cohérent avec ce qui avait été énoncé justement au lendemain des attaques de Kati, où justement le DNIM avait annoncé que de plus en plus, il fallait s'attendre à des attaques notamment probables vers la banlieue de Bamako, mais aussi parce que c'est une stratégie de pouvoir montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont présents malgré ce qu'on appelle la montée en puissance de l'armée malienne, que les capacités ne sont pas amoindries. Et, il faut aussi rappeler qu'ils ont une grande facilité à mener des combats. Là où l'armée, on va dire, a une certaine lourdeur, les djihadistes peuvent, avec une personne avec une arme, en fait, très facilement s'aimer la confusion et s'aimer la peur. Et c'est ce qu'on a vu assez récemment avec les attaques que l'on voit non seulement du côté du centre, mais aussi de plus en plus vers le sud. Et il faut aussi noter, en fait, une stratégie de plus en plus de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai que pendant très longtemps, on a parlé de présence au nord, on a parlé de présence au centre du Mali, et c'est important à un moment où on parle beaucoup de monter en puissance encore une fois de l'armée malienne, de montrer que la capacité de nuisance est toujours là et qu'il y a toujours une capacité d'attaquer, notamment au plus proche de la capitale où il y a énormément de forces de défense et de sécurité.
Vous parlez de présence, pourtant pour l'armée malienne, les terroristes sont de plus en plus fébriles.
Alors oui, tout à fait. Et je pense que c'est important de le dire, que ce que l'on entend très souvent sur montée en puissance de l'armée malienne, ce n'est pas qu'un narratif. Quand on regarde les chiffres, quand on suit de près les interventions de l'armée malienne, on se rend compte qu'il y a de plus en plus beaucoup d'actions qui sont menées. Il y a beaucoup d'interactions qui sont menées. Donc c'est sûr et certain que l'armée malienne mène aussi des opérations. Et on le sent, que ce soit encore une fois au centre du Mali, au sud, on le voit, que ce soit Koulikoro ou Sikasso, mais aussi au nord du Mali, toujours notamment l'axe Ansongo-Labezanga, où il y a de plus en plus d'interventions des forces de sécurité. Ceci étant dit, comme je le dis, les forces, les groupes extrémistes violents ont une certaine capacité de nuisance et une certaine rapidité qui est plus rapide, justement, que celle de l'État. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on peut mener une action très rapidement. Il suffit de deux personnes à moto qui attaquent un poste de contrôle des forces de défense et de sécurité pour que justement ça fasse la une des journaux et qu'il y ait mort d'hommes qui s'en suivent.
Paul Oula, de plus en plus, on constate des embuscades contre l'armée malienne dans les alentours de Bamako. Quelle lecture faites-vous de ces situations-là?
Ok, merci Monsieur Maïga. Et vous savez, actuellement la conjoncture sécuritaire est très volatile et l'insécurité aussi est très volatile. Maintenant, moi je pense très sincèrement que ces attaques sont dues, c'est-à-dire les groupes terroristes veulent créer une psychose générale et généralisée, et voilà, au sein de la population pour essayer de casser ce qu'on appelle l'élan ou bien la dynamique de l'armée, c'est-à-dire de la montée en puissance qu'on est en train de crier haut et fort chaque jour. Maintenant, c'est aussi montrer qu'ils peuvent, c'est-à-dire attaquer où ils veulent, quand ils veulent, et quand ils veulent. Maintenant, bon, est-ce que réellement l'armée serait en mesure de contrer ces attaques? C'est une question hautement stratégique, parce qu'il faut aussi interroger la typologie du conflit auquel l'armée est en train de faire face. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la prolifération de plusieurs groupes terroristes sur toute l'étendue du territoire. D'abord, la crise sécuritaire qui est en train de frapper le Mali trouve sa source au niveau de la crise qui était au niveau du nord, qui s'est plus ou moins métastasée et délocalisée du centre jusqu'au sud. Maintenant, moi, je pense très sincèrement que la situation est très confuse.
D'accord. Docteur Ali Atunkara, la situation est-elle plus ou moins complexe en ce moment ?
Non, clairement, je pense que pour compléter les propos précédents, trois éléments sont importants à mettre en évidence. Le premier, si vous regardez un peu, il y a un an de cela, beaucoup d'actions militaires ont été engagées, comme Ram Keita, M. Paul l'ont évoqué, tant dans les régions du Nord ainsi que celles du Centre. Ces différentes actions militaires ont à coup sûr porté, en tout cas, le coup dur à Al-Qaïda, qui se trouve aujourd'hui sous la coupole du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, de façon beaucoup plus marquée dans les parties dites au centre du Mali. Donc, ces actions militaires ont intensifié, on a assisté à une sorte de dislocation de ce groupe, les QG, les quartiers généraux de ce groupe radicaux violents, étant sérieusement touchés, voire anéantis par certaines actions militaires. Donc, ils se sont dispersés dans la nature. Maintenant, de cette dispersion, ce qui va nous amener au deuxième élément, les groupes radicaux violents, n'étant plus structurés du point de vue numérique comme ils étaient il y a de cela un an, ils vont forcément s'attaquer à des centres urbains, ou en tout cas aux alentours des centres urbains. Et pour ce faire également, lorsque des attaques sont perpétrées non loin des capitales régionales ou même non loin du district de Bamako, cela aura comme conséquence une certaine méfiance affichée vis-à-vis de l'élite militaire au pouvoir. Donc, il est recherché au terme de à la suite de ces différentes attaques par les groupes radicaux violents à comment créer cette cacophonie, cette peur ou cette, justement, en tout cas, cette absence de réponse adéquate de la part de l'élite militaire au pouvoir. L'autre élément important à ne pas oublier, c'est de ces attaques sporadiques dirigées contre les centres urbains ou contre les checkpoints ou les postes de sécurité. On chercherait également, et par ces attaques, à remonter le moral des troupes, c'est quand même important, parce que beaucoup d'hommes ont perdu la vie à la suite de ces actions militaires engagées contre le groupe radicaux violent, de même également au rang de force des éléments et de sécurité de la République du Mali. Maintenant, les nouvelles recrues, à certains égards, ont dans ces besoins d'être renforcées du point de vue psychologique, que le moral soit revu à la hausse, parce que lorsque on est engagé dans un groupe radical violent, que nous subissons assez des pertes en vie humaine, même des pertes matérielles, naturellement, on pourrait être gagné par la peur, par notre capacité, par des sentiments suspicieux. Est-ce que ne faut-il pas abandonner le groupe? Est-ce qu'au bout du tunnel, ne faut-il pas se rendre ou ne faut-il pas réintégrer le corps social? Ce sont entre autres ces questions auxquelles non seulement les nouvelles recrues se posent, mais dans le même temps, même certains ténors de ces groupes radicaux, avec la force du fait de l'armée, pourrait amener à penser ainsi. Donc, en somme, voilà, deux groupes sont dispersés depuis décembre 2022 à aujourd'hui. De même, on chercherait à créer de la panique et enfin à comment remonter le moral des troupes aujourd'hui, lequel moral serait un peu dans une situation de déliquescence au regard des pertes qu'elle subit ce groupe radical.
D'accord. On constate de moins en moins un évitement de face à face avec les groupes terroristes, mais plutôt des attaques à l'embuscade. Pensez-vous que le renseignement de l'armée fonctionne toujours ?
Alors, ça va être compliqué de juger la pertinence de ces renseignements. C'est vrai que quand on regarde un peu le nombre d'acquisitions en termes d'équipements militaires, le nombre de recrutements en cours, également un certain nombre de formations assurées à l'endroit des forces des éléments de sécurité, cela explique le pourquoi aujourd'hui les groupes radicaux s'attaqueraient moins à des différentes bases militaires. Maintenant, en ce qui est d'embuscade récurrente dont on assiste en particulier dans la région du centre du Mali, on n'est pas dans les secrets de tous les états-majors, mais ce qui est sûr, il y a un manque cruel en termes de renseignements humains. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas aussi occulter, parce que si vous regardez un peu dans la doctrine militaire, lorsque sommes-nous dans une localité très sensible ou dans une zone hostile en termes militaires, on est censé justement faire une sorte de fouille. Il y a une sorte de... En fait, en gros, de façon simple pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent, un certain nombre d'éléments des forces de défense et de sécurité doivent d'abord faire une certaine traversée à moins de 2 km pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemis devant. Mais il arrive parfois que ces étapes soient brûlées, peut-être que pour des besoins un peu de rapidité, pour arriver à destination. Donc il y a ce manquement à coup sûr. Mais l'autre élément, pour finir ici, c'est quand même un problème de chevauchement, parce que ce sont les éléments de la gendarmerie qui sont par excellence et les mieux dotés en termes de collecte et de fourniture de renseignements. Mais au regard de l'intensité des combats aujourd'hui, les éléments de la gendarmerie sont même transformés en des fantassins. On a même du mal aujourd'hui à différencier qui est de la gendarmerie, qui est de l'armée de terre, qui est de l'armée de l'air dans le contexte malais. Donc, une sorte de bruit entre les différentes corporations quant aux missions qui sont les leurs.
D'accord. Kadiatou Ali met en évidence un manque de renseignements humains. Et vous, qu'est-ce qui manque selon vous à l'armée malienne pour faire face à la situation des engins explosifs?
Alors les engins explosifs, c'est une situation très difficile et très délicate parce que c'est très facile à poser, effectivement. Et c'est très facile à poser. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on a des moyens aériens de plus en plus, notamment avec tout ce qui a été acquis récemment et tout ce qui reste à venir aussi. Par contre, on a une armée qui se déplacent encore dans la très grande majorité des cas par la route. Et ça, c'est nécessaire aussi parce qu'il faut aussi ratisser dans les villages, dans les moindres recoins. Mais on sait aussi qu'il y a plusieurs endroits au Mali qui ne sont pas habités, où c'est un petit peu le désert. Donc, c'est assez facile de pouvoir placer des engins explosifs sans qu'on ne soit informé. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi la peur. On sait que les populations ont de plus en plus peur à interagir avec les forces de sécurité, à informer de ce qui se passe, parce que déjà, c'est l'un des premiers éléments, la terreur, que les groupes extrémistes violents essaient de mettre dans l'esprit des gens. La plupart du temps, c'est vous pouvez vaquer à vos occupations tant que vous ne collaborez pas avec l'État, tant que vous ne collaborez pas avec les représentants de l'État et notamment avec les forces de défense de l'État. Donc, il y a aussi un sentiment de peur pour sa vie, pour la vie de sa famille et de sa communauté, de dire oui, mais en fait, on a vu telle action, on va aussi informer. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est aussi la rapidité d'action des forces de défense et de sécurité, qui parfois peut, du point de vue des communautés, elles peuvent avoir le sentiment que c'est un petit peu lent quand l'information est donnée, la réaction prend un peu plus de temps. Donc on peut aussi dire qu'il peut y avoir un petit découragement de ce point de vue de pouvoir informer assez rapidement.
Dans ce cas, y a-t-il une zone sécurisée aujourd'hui au Mali?
Je pense que quand on regarde l'insécurité en général, et encore une fois, il y a plusieurs facteurs d'insécurité, il y a plusieurs types d'insécurité. On parle beaucoup d'extrémisme violent, mais il y a la criminalité, il y a les trafics, et c'est vrai que ce sont des types d'insécurité qui peuvent être concentrés d'une manière ou d'une autre dans une région ou dans une localité spécifique, mais aujourd'hui avec les attaques, avec la recrudescence des attaques, avec les armes aussi en circulation, on sait très bien, on ne le souhaite pas, mais que des actes d'insécurité sont possibles et probables un peu partout.
D'accord. Paul, comment éviter alors ces mines-là?
Bon, vous savez, c'est très difficile d'éviter ce type de conflit, pardon, ce type d'attaque. Parce que vous savez que moi-même, je pense très sincèrement que le mot EI doit évoluer.
Pourquoi c'est difficile?
Bon, laissez-moi terminer d'abord. Je pense que ça doit évoluer. Les engins explosifs improvisés. Aujourd'hui, moi, je pense que dans tous les états-majors, dans toutes les administrations militaires, je pense très sincèrement que le mot improvisé doit être enlevé complètement de ce sigle-là. Pourquoi? Parce que vous savez que improviser, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne s'y attend pas. Alors, si un groupe tactique de l'armée essaie de quitter un point A pour partir vers un point B, alors ils doivent quand même d'abord être préparés psychologiquement qu'ils peuvent être proie des attaques de type embuscade ou de EI. Donc, dès là-bas, je pense que ce n'est plus improvisé. C'est mon point de vue. Ça doit naturellement évoluer, ou bien graduellement évoluer. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'était quoi? C'est que moi, je pense que pour réellement éviter les attaques, vous savez que c'est des types d'attaques qui sont prohibées par le DIH. Maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que nous n'avons pas, c'est-à-dire une armée qui est capable de traiter tous les renseignements nécessaires au moment voulu et au temps opportun? Parce que quand vous recevez des renseignements pendant un moment et que vous n'avez pas pu agir pendant un laps de temps, alors ça devient caduque. C'est un premier élément.
Voilà. Alors pourquoi vous dites qu'il serait difficile d'éviter ces engins explosifs, ces mines-là?
Il serait difficile parce que qui pose les engins? C'est un problème. Qui pose les engins avec lui? Ça peut être les groupes terroristes, ça peut aussi être des civils qui ont, c'est-à-dire, comment dirais-je, des liens de connivence avec les groupes armés. Alors, vous savez que nous avons un territoire qui est très vaste, où la densité est très faible, surtout dans les régions du nord. Alors, est-ce que l'armée serait en mesure de voir tous les gens, ou bien toutes les personnes qui sont en train de poser les engins? C'est très difficile de voir. Donc moi, je pense que pour ces cas-là, l'armée doit s'attendre. L'armée doit s'attendre. Voilà.
D'accord. L'armée doit s'attendre. Ali, est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle il serait difficile pour l'armée d'éviter ces mines?
Non, je pense que son pessimisme n'est pas aussi dangereux qu'on le penserait. Pour dire que, enfin, l'idée que je vais développer, ce n'est pas pour amener les gens à s'inscrire dans une sorte de frénésie perpétuelle, mais c'est pour dire que quand on regarde les acteurs aujourd'hui qui sont engagés dans ces conflits avec le référentiel musulman ou communautaire, on se rend compte que c'est quand même compliqué d'apporter des réponses durables dans un court terme. D'où toute la pertinence aujourd'hui d'interroger d'autres leviers autre que militaires. Parce que quand vous allez dans ces localités, vous allez vous rendre compte que on a enregistré des cas où des jeunes gens vous diraient que voilà, lorsqu'on pose une mine et qu'un convoi de l'armée succombe, on a systématiquement un 300 000, voire 400 000, ça va dépendre de la localité. Ou si c'est un bus transportant des civils, on a un montant forfaitaire qui nous est donné. Donc pour dire que dans ces conflits multidimensionnels auxquels le Mali fait l'objet, il est effectivement difficile, ce n'est pas pour appeler les gens à plus de peur, mais qu'ils sachent que personne n'a de solution miracle dans un avenir aussi proche pour mettre un terme, malheureusement, à ces mines artisanales parfois qui sont posées ça et là, ou de faire en sorte que l'armée soit davantage mise à l'abri de certaines embuscades. Je sais qu'il y a toute une gamme de théories, de stratégies développées ou en cours de développement par les différents états-majors en vue de se prémunir de ces situations, justement, de ces cas d'imprévus. Mais tu retiens qu'il faudra qu'on prépare les malins, c'est quand même important, à leur dire qu'attention. C'est vrai, quand on écoute même le Premier ministre à la suite de la souveraineté retrouvée, lorsqu'il s'est permis de dire qu'il n'y a pas une portion du territoire aujourd'hui qui ne soit pas investie ou qui ne pourrait pas être investie par l'armée malienne. Ça, ce sont des propos, certes, qui rassurent, mais du point de vue analytique, qui sont quand même très scandaleux parce qu'on aura du mal voilà, en notre
mais est-ce
qualité.
Est-ce qu'il y a une forte chance d'éviter ces mines-là?
Les mines, on peut les minimiser. Enfin, le cas d'incident pourrait être minimisé, mais dans un avenir proche, ça va être compliqué parce que non seulement cela a besoin d'outils très coûteux, même si l'armée est en pleine acquisition d'armement, mais dans le même temps, au-delà du coût financier lié à ce type d'équipement pour déjouer ces pièges, il y a un temps aussi pour la formation des hommes et des femmes qui vont manier ces différents outils, sans oublier l'apport précieux de communautés en termes de collecte et de fourniture de renseignements. Parce que dans ces différentes localités, la connivence dont il est question, elle est sans appel. Hein. Beaucoup de localités, à force de vivre le conflit, on finit par ethniciser le conflit. Beaucoup d'endroits, à force de vivre ces conflits, on a fini malheureusement par leur donner ou par lui donner une dimension géographique. Donc pour dire que ça va être très compliqué à l'armée, même si vous enrôlez tous les Maliens aujourd'hui au sein des FAMA, dire que si un politique ou un militaire venait à vous dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, on va mettre un terme à ces mines improvisées où on va être 100% prêt pour faire face à l'ennemi, ce sont des discours qui sont super jolis à entendre, mais vu l'intensité et la complexité de ces phénomènes dynamiques justement et pluriels, il me paraît tout à fait impossible dans un court terme que les éléments des forces de défense de sécurité se mettent à l'abri de ces mines improvisées.
Kadiatou, on voit que les autorités concentrent de plus en plus les efforts militaires, les efforts sur la sécurité, sur les efforts militaires. Est-ce à dire que cette concentration sur des solutions à caractère militaire a-t-il eu un impact sur les résultats attendus?
Je vais répondre à cette question, mais je vais juste ajouter un dernier point à ce que Ali disait, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus la capacité d'adaptation des groupes extrémistes violents. On le voit notamment même avec des forces comme la MINUSMA, où chaque fois où il y a des blindés qui sont adaptés à un certain type de mine, qu'il y a d'autres types en fait de mines qui sont créées. Donc chaque fois il faut acheter d'autres types de voitures, d'autres types de blindés qui sont capables de pouvoir résister, on va dire, aux engins explosifs. Donc, il y a une grande capacité des groupes extrémistes violents qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, pour répondre à la question de l'armée, non, je pense que quand on parle de l'État ne s'applique pas uniquement que sur des solutions militaires. Je pense que ça fait très longtemps qu'on dit qu'il n'y a pas que des solutions militaires qui vont venir à bout de ce conflit. Et je pense que c'est quelque chose qui a été entendu. Il y a quand même des tentatives qui ont été mises en œuvre pour essayer d'apporter une réponse holistique à la situation que le Mali vit depuis une dizaine d'années maintenant. Quand on regarde même le centre, il y a la stratégie... Il y a la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action qui a été adopté assez récemment et qui comprend un certain nombre d'axes, notamment tout ce qui est développement économique, notamment tout ce qui est cohésion sociale, tout ce qui est justement gouvernance, les questions de gouvernance et des questions de justice qui sont très, très importantes. Donc, il y a des initiatives. En plus de ça, il y a aussi des initiatives qui sont menées par des ONG locales ou internationales. Donc, je pense que ce serait un petit peu erroné de dire qu'il n'y a que des solutions militaires qui sont adoptées. En plus des solutions militaires, il y a des solutions holistiques, on va dire, qui essayent d'être adoptées. Mais je pense que face à ça, il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est l'application ou la mise en œuvre des solutions. Ça, c'est un premier défi qui se pose aussi à la pratique des terrains. Comme on l'a dit, quand on parle de retour de la justice ou de l'accès à la justice dans des localités et que l'on sait que, par exemple, les magistrats peuvent être les cibles des groupes extrémistes violents, il y a aussi des problèmes concernant la mise en œuvre pratique de ces solutions-là. Et je pense que Il y a aussi des problèmes de coordination entre les différentes initiatives qui sont mises en place. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont là, mais je pense qu'il y a aussi moyen de travailler à l'application de ces initiatives dans des contextes extrêmement difficiles. Quand on parle du retour de l'État dans une localité, comment on parle du retour de l'État dans une localité et des services sociaux de base, alors que, par exemple, cette localité est sous le joug des groupes extrémistes violents.
Ces embuscades auxquelles l'armée est confrontée, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée s'est préparée face à ces attaques, à ces cas d'embuscade?
Alors, les conflits asymétriques sont des conflits qui sont difficiles à gagner, qui sont très, très difficiles à gagner, justement, parce que, comme je l'ai dit, les embuscades sont des attaques qui sont très faciles à mettre en œuvre. Attaquer un camp, ça demande beaucoup plus de préparation que plutôt que poser des embuscades où on peut se baser sur des populations civiles qui ont déjà des problèmes vis-à-vis de l'État, parfois, et qui, comme Ali l'a rappelé, parfois pas sous contrainte, mais en échange de sang, peuvent mener des attaques assez facilement. Donc, c'est pas pour dire que l'État ne peut pas mener ou que l'État ne s'est pas suffisamment préparé. Encore une fois, je pense qu'on le dit ici, il y a énormément de choses à faire, mais il y a aussi des choses qui sont faites. En termes d'embuscade, il y a des choses qui sont faites. Mais c'est très facile de pouvoir le mener. Comme je l'ai rappelé au tout début, l'objectif des groupes extrémistes violents, c'est vraiment d'instaurer la terreur. Et c'est aussi de pouvoir agir sur la communication. Et de dire, n'oubliez pas que nous avons une capacité d'action qui est très importante. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire avec une personne, avec deux personnes à moto. Là où l'État aura besoin de beaucoup plus de moyens, que ce soit des moyens financiers, des moyens militaires ou des moyens humains, ces groupes extrémistes ont beaucoup plus de facilité de le faire. Et l'autre chose aussi qui est importante aussi quand on analyse les embuscades, c'est que ces groupes et l'État n'ont pas forcément les mêmes moyens. Quand je parle des mêmes moyens, je parle des règles, ne suivent pas forcément les mêmes règles. Ce que les groupes extrémistes peuvent faire en termes d'embuscades, en termes d'engins explosifs improvisés, c'est très difficile pour l'État. L'État ne peut pas faire ça, parce que l'État est réagi, comme on le dit, par le droit international humanitaire et que finalement, ce n'est pas les mêmes règles en jeu. Donc l'État se bat contre un adversaire qui a peu quand même de scrupules, là où l'État a une certaine obligation morale et une certaine obligation légale de ne pas faire un certain nombre de choses.
Quand vous dites qu'il faut mettre également l'accent sur la communication, de quelle communication parlez-vous ?
Je pense que la communication est très importante parce qu'effectivement, on l'a dit, quand on parle d'attaque à Bamako, quand on parle d'attaque dans la banlieue de Bamako, c'est aussi une communication des groupes extrémistes violents, de dire, vous voyez justement qu'aujourd'hui, on a une capacité d'action qui est énorme. Là où vous parlez de montée en puissance de l'armée malienne, nous, on vous prouve qu'on a les capacités de sortir un petit peu de la zone, de la localité qui nous a été, entre guillemets, assignée pendant un moment, de notre base, et d'attaquer au plus près du centre politique, au plus près du pouvoir, même militaire. Donc, il y a des actions aussi comme ça qui sont menées. Par contre, là où il faut aussi regarder un peu plus en détail, c'est aussi la communication. C'est une communication qui rassure les populations, elle est nécessaire, mais c'est une communication aussi sur ce qui est mené. Ça, c'est à double tranchant parce qu'on ne veut pas non plus trop informer l'adversaire, on va dire, de ce qui se trame, de quels sont les moyens qui sont là, mais on a aussi besoin de pouvoir rassurer par rapport à les actions qui sont prises par l'État et sur ce qui est fait. Et ça, c'est important et c'est nécessaire.
D'accord. Paul, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée dispose des moyens de déminage pour éviter de moins en moins ces cas d'embuscade?
Oui, l'armée en dispose, c'est vrai. Mais le problème est que, comme je vous ai dit, la vastitude de l'État, du territoire malien ne permet pas à l'armée d'opérer comme il faut. Donc ça, c'est un problème purement lié, c'est-à-dire la vastitude du territoire. Et deuxièmement, il faut aussi parler aussi de l'insuffisance des ressources humaines au niveau de l'armée malienne. Vous savez que le ratio de militaires pour la population est purement insignifiant au Mali ici. Donc du coup, il faut essayer de jouer un peu sur ces deux leviers-là. Moi, je pense très sincèrement que c'est très difficile, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Je pense que le fait de restructurer l'armée constitue aussi un élément très important qu'il faudra prendre en compte. Par exemple, essayer de rehausser ce qu'on appelle le moral de la troupe, c'est-à-dire le moral de tous les militaires, en leur disant que alors vous partez sur le théâtre d'opération, c'est vrai, mais effectivement, il peut y avoir des ennemis. Donc il faut, ça prépare déjà, c'est-à-dire les troupes sur les théâtres d'opération. Ça, c'est des éléments qu'on peut, c'est-à-dire juste ajuster au niveau des dispositifs. Voilà.
D'accord.
Et ensuite, pour cela, il faut aussi faire ce qu'on appelle une coordination. Parce que vous savez, la plupart des gens, c'est-à-dire qui opèrent sur les théâtres d'opération, ne sont pas forcément aussi des gens qui viennent de ces localités, par exemple. Vous savez que le centre est pratiquement, dans la cartographie ethnique au niveau du centre, vous avez les Peuls, les Dogons, les Bozos, les Bambara, et un peu quelques Djawando qui sont là-bas. Mais maintenant, est-ce que ces gens-là connaissent un peu la configuration sociologique et ethnologique de ces zones-là? Je pense que ça aussi, c'est un élément très dangereux. Parce que quand vous envoyez quelqu'un sur l'état d'opération, il ne maîtrise pas un peu les aspects linguistiques, les aspects sociologiques. Je pense que sur l'état d'opération, ça peut vraiment jouer sur les résultats escomptés. Voilà.
Quand vous dites de mettre en place une coordination, de quelle coordination il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une coordination des unités de l'armée?
Une coordination au niveau des unités. Parce que vous savez aussi, il y a une concentration des groupes d'autodéfense au niveau du centre, c'est-à-dire dans la région de Morty, mais qui est purement insuffisant au niveau de, bon, plus ou moins, mais très insuffisant au niveau de la région de Ségou, par exemple. Ce que les groupes d'autodéfense au niveau de la région de Morty, les Dogons, par exemple, les gens de Dana Amasago, et un peu les ceux qui se réclament des groupes d'autodéfense, des Peuls, peuvent agir sur les groupes terroristes plus que l'armée en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'entre eux, ils se connaissent. Ils se connaissent et puis s'ils voient des étrangers, ils savent que celui-là n'est pas un de nous. Donc directement, ils peuvent opérer. Tel n'est pas le cas avec l'armée. L'armée peut agir lorsqu'il est en face avec un ennemi. Alors que le type de conflit auquel on fait face, c'est un ennemi qui est pratiquement invisible. Voilà.
Donc,
invisible, il est dissimulé. Voilà.
Donc vous estimez que l'armée manque de coordination?
Très. C'est ce que je pense. Pertinemment, je pense qu'il manque réellement une coordination au niveau des unités. Voilà.
Ali, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée malienne est-elle de moins en moins dans l'offensive? Est-ce que l'armée est dans l'offensive?
Non, je pense que depuis décembre passé, quand on regarde les différentes opérations engagées, tant du fuseau nord à partir de Nara, de même fuseau centre à partir de Mopti, ou une bonne partie de Ségou d'ailleurs, naturellement, on est vraiment dans l'offensive, ça c'est sûr, parce que beaucoup de poches de ces groupes radicaux violents ont été atteintes grâce à des initiatives prises par l'armée de s'attaquer à ces groupes, ce qui n'était pas effectivement les cas il y a 3 ans, voire 2 ans de cela. Donc pour dire que de plus en plus, les éléments de forte défense et de sécurité ont la foi et les moyens nécessaires, ce qu'on observe, d'aller à l'encontre de l'ennemi, ce qui est à saluer.
Dans ce cas, est-ce que vous aussi, vous avez constaté ce manque de coordination au sein de l'armée?
En fait,
dont parle Paul.
Non, je pense que la coordination, l'insuffisance, ou peut-on parler plutôt de l'insuffisance de la coordination, elle est observable à plusieurs niveaux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations, loin de faire l'éloge d'un quelconque coup d'État. Pour avoir été très proche des militaires dans pas mal de circonstances, il y avait des soucis avant que les militaires ne viennent au pouvoir entre déjà les différents corps. Il y a quand même des localités, on va pas dévoiler des secrets, où les chefs du contingent de la gendarmerie ne s'adresse même pas la parole à son collègue de l'armée de terre, par exemple. Ça, c'était des choses très connues au sein de l'armée. Aujourd'hui, reconnaissons quand même que beaucoup d'efforts ont été consentis afin que les efforts soient davantage mutualisés à la suite d'engagements auxquels les différents états-majors font l'objet. Mais il y a un élément quand même qui est important, parce que si vous regardez un peu ces 10 derniers mois, les différents commandements sont quand même tenus par des jeunes officiers, lesquels jeunes, si vous échangez avec eux sur le terrain, interagissent de façon tout à fait plausible avec le chef d'état-major général des armées. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de quelques victoires qu'on a assistées ou que l'armée a remportées ça et là. Donc le fait de rajeunir le commandement, ça a beaucoup aidé. Mais les questions de configurations anthropologiques dont Paul faisait à Lijon sont importantes. Mais sauf qu'il y a quand même un autre piège à ce niveau, parce que lorsqu'on est engagé dans une armée républicaine et qu'on agit avec professionnalisme, c'est vrai, des barrières linguistiques, des considérations vis-à-vis du fait religieux, des considérations vis-à-vis même de l'être humain, qu'on soit homme et femme, sont entre autres des aspects qui sont importants. Mais ils ne suffisent pas, parce que à force de vouloir s'attarder sur les particularités, nous risquerons justement de tomber dans les pièges de certains groupes signataire et non signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui d'ailleurs souhaiterait vivement ce que l'armée soit communautarisée, ce que je dénonce d'ailleurs dans mon prochain bouquin, même si pour ne pas faire de publicité. Donc pour dire que, attention, parce que vouloir trop s'attarder sur le terroir, on risque d'oublier que l'armée, elle est républicaine, l'armée, elle est a-religieuse, l'armée, elle est a-ethnique, l'armée, elle n'a même pas des géographies. Or, les groupes armés signataires et non signataires, ou même les groupes d'autodéfense, malheureusement, veulent nous vendre une recette qui, au bout du tunnel, on va se retrouver dans une armée très communautarisée, à mon avis. On va se retrouver dans une armée, à la limite, même ethnicisée. Donc, je pense que ça, c'est un piège dont il faut éviter. Mais attention, dans les différents corps, vous avez des unités. Quand on prend la prévôté, par exemple, qui est une fonction qui revient à la gendarmerie, voilà, c'est les éléments qui font ces... qui jouent ce rôle de prévôtal, très souvent, ils ont des très bonnes bases sur les questions anthropologiques, par exemple, pour avoir assisté à un certain nombre de leurs formations. Et de même également, au sein de chaque corporation, le commandant est censé avoir un certain nombre d'astuces dans les écoles militaires, l'état-major, en passant par le mien, même l'école de guerre, où ces questions de variables sociologiques et culturelles sont sérieusement débattues. Mais c'est vrai que les manquements sont toujours observables.
– D'accord. Kadiatou, que faut-il craindre avec l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui ?–
Je pense que ce qu'il faut craindre, c'est qu'il y ait une situation sécuritaire qui ne soit pire que ce qu'elle est aujourd'hui, aujourd'hui, premièrement en termes d'attaques que l'on voit de plus en plus, deuxièmement aussi en termes de zones ciblées, et c'est ce que l'on voit de plus en plus, qu'il y a une stratégie d'expansion de ces groupes dans plusieurs localités. Et j'anticipe un petit peu sur les solutions, mais je pense qu'il est très important en fait d'anticiper et de pouvoir travailler sur la prévention. Je pense que pendant très très longtemps, on a été dans la réaction des zones contrôlées par les groupes extrémistes, dans la réaction de l'installation de ces groupes dans certaines zones, et qu'il y a eu très peu de prévention en fait. On a parlé tantôt des solutions qui doivent être des solutions holistiques et pas que des solutions militaires, mais on a aussi parlé des défis en fait concrètes de la mise en place de ces solutions holistiques dans des endroits où des représentants de l'État ne peuvent pas aller. Et ça, ces solutions holistiques sont beaucoup plus faciles à mettre en place quand il n'y a justement pas encore une installation progressive justement de ces groupes, parce qu'il faut savoir que les groupes sont très au fait justement des facteurs sociologiques, des vulnérabilités locales, et se basent sur ces vulnérabilités locales pour s'installer dans les localités. À partir du moment où l'installation est faite, où les alliances sont créées, il peut être beaucoup plus difficile d'intervenir. Et ça, c'est ce que l'on voit depuis une dizaine d'années dans ce conflit-là. Donc, il est vraiment important de pouvoir prévenir, de mettre en place des actions concrètes qui permettent un petit peu de contrecarrer l'installation de ces groupes, parce qu'une fois, encore une fois, quand ces groupes sont installés, les désinstaller est un peu plus difficile.
Parlant de solutions, quelle est l'urgence aujourd'hui, selon vous ?
Alors, j'ai mal à le rappeler, je pense que tout est urgent au Mali. D'un point de vue gouvernance, il y a énormément d'urgence, parce que quand on regarde aussi les raisons d'adhésion de certains groupes, de certains jeunes à ces groupes extrémistes violents, parfois il y a des raisons de gouvernance, il y a des raisons de justice. Donc, il faut aussi véritablement mettre sur place une gouvernance qui soit la plus inclusive possible, qui prenne en compte les aspirations du peuple et des populations le plus possible. possible. Ça, c'est une des choses à mener. Les services sociaux de base, encore une fois, c'est très difficile de pouvoir mettre ça sur place à partir du moment où il y a une installation des groupes. Donc, il faut pouvoir agir en amont sur cela. Et bien sûr, on a parlé aussi de l'offensive militaire, c'est important. Je pense que gagner la guerre, ça se situe à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a des solutions autres que militaires à mettre en place. On l'a dit, gouvernance, justice, sociale, équité. Mais il y a aussi des solutions militaires à mettre en place, que ce soit justement par un renforcement des moyens, des capacités de l'armée, mais aussi un nombre beaucoup plus important de militaires.
Paul, vers la fin 2021 jusqu'à mi-2022, l'armée a annoncé dans des communiqués des victoires sur l'ennemi. Cela poursuit-il ?
Oui, la victoire, elle poursuit sur le théâtre d'opération, c'est évident. Mais le problème est que la victoire n'est pas effective sur tous les plans. C'est une guerre asymétrique, alors on ne peut pas gagner en un laps de temps. Vous avez vu le cas en Afghanistan, où les Américains ont fait plusieurs années là-bas, et en un jour, ils ont pris bagage, ils ont pris la tangente. Donc nous aussi, nous devons réellement jouer sur beaucoup de leviers, en continuant à renforcer les équipements au niveau... à continuer à renforcer ou à équiper les capacités opérationnelles de l'armée et aussi à jouer comme elle a dit sur les leviers de gouvernance, voilà, justice, ainsi de suite. Vous savez que quand on fait la reconquête, quand l'armée fait la reconquête, elle est obligée de faire aussi la stabilisation. Quand on stabilise, il faut que la stabilisation soit accompagnée par le déploiement et le retour de l'administration sur place. Quand l'administration n'est pas là-bas, c'est comme si on n'a rien fait. On est obligé encore de revenir à zéro. Donc il faut réellement pacifier. Quand on pacifie, il faut que la population soit aussi très proche de l'administration, que l'administration soit proche des administrés. Sans ça, c'est comme le retour à l'envoyeur, quoi. Voilà.
Ali, selon vous, d'où résident les solutions de la guerre asymétrique ?
Alors, les solutions sont très plurielles, mais dans le même temps, elles sont vraiment contextualisées parce qu'on a cette impression que les réponses qui sont proposées jusqu'ici depuis le président Keïta aujourd'hui peinent par moment et par endroit à bien contextualiser. Si vous prenez Diafarabé, comparez l'insécurité à Diafarabé à celle qui vit de localités comme Songo, Soubundou ou autres, même dans les localités proches de Nyono, on se rend compte que d'une poche d'insécurité à une autre, malheureusement, les recettes sont loin d'être communes. Or, qu'on soit avec État, qu'on soit avec organisation non gouvernementale, qu'on soit avec partenaires sous-régionaux ou internationaux, l'impression qui est donnée à l'analyste, c'est de proposer des solutions abruptes pour toutes ces localités. Or, ce sont des localités, malheureusement, qui connaissent des facteurs d'engagement dont Keïta a parlé, tout à fait variés et variables. Donc, il faut des solutions contextualisées, des solutions circonstanciées, mais surtout qu'on comprenne qu'attention, le pays est engagé dans un conflit qui s'appelle le long temps. Il ne faut pas qu'on vende des mirages aux Maliens. Si un militaire annonce la fin de cette guerre asymétrique d'ici à un an, deux ans, ou si un politique se hasarde de promettre à l'électorat qu'une fois investi, le président de la République va mettre un terme au bout de deux ans, c'est des choses, soit ces acteurs vous prennent pour des idiots, soit ils vous mentent. Donc les Maliens se préparent, malheureusement, ce n'est pas fétichiste, pour le long temps, et puis vraiment de la patience. Dernier élément, il faut qu'ils continuent, tous ces Maliens et Maliennes, à fournir surtout des renseignements de qualité aux éléments de force de défense de sécurité, et de dire qu'attention, il ne faut pas surestimer non plus les forces, la capacité de l'armée, sinon on risque de ne plus avoir foi en elle.
D'accord, on termine avec Kadiatou. Comment gagner cette guerre asymétrique ?
Alors, gagner une guerre asymétrique assez rapidement, c'est gagner les cœurs. parce que les groupes extrémistes violents se basent aussi sur des populations, sur des groupes, des gens qui peuvent participer à la lutte avec eux. Donc c'est vraiment de travailler à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un sentiment de dire ben non, en fait, l'État fournit tout ce qu'un État est capable de fournir et de se dire ben finalement non, on n'adhère pas au groupe. Donc travailler encore un peu, comme si on l'a dit, sur les facteurs d'adhésion des participants, des populations à ces groupes extrémistes violents, c'est de pouvoir mettre en place des services qui font que les citoyens se disent « mais en fait, je vis dans un État qui m'est utile, qui participe à mon bien-être » et c'est cela qui fait que forcément, on va travailler à la racine et à la cause.
Travaillons à la racine et à la cause, c'est ce qui me fait, avec ces mots de Kadiatou Keïta, qui me fait à ce grand dialogue, qui réfléchissait sur les réponses apportées à la recrudescence des attaques dans le pays. Et nous étions avec Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires, Paul Oula, analyste sécuritaire. À la présentation, Imrana Kilou Maïga, à la mise en onde, Mamadi Keïta, et à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. À demain pour un autre débat.